Qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Ah, je sais. Anne va me donner des recettes simples et délicieuses.
Mettez votre tablier, sortez vos ustensiles et préparez-vous. C'est l'heure de Foodanne sur Infini Radio.
Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir Nathalie, bonsoir Théo. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Vous en avez profité un petit peu pour cuisiner avec vos amis, en famille. Non ?
Oui, peut-être. Cuisiner pas plus que ça.
Pas plus que ça, bah, super.
Reposer pas plus que ça non plus.
D'accord. Mais nous, on bosse à l'extérieur, on ne fait pas que ça. Hein. On est bénévole au niveau de la radio. Alors, moi, je suis ravie de vous retrouver encore au bout de 15 jours avec de nouvelles recettes gourmandes, faciles, simples à réaliser. Alors, on va voir ensemble notre menu de ce soir. Alors, pour ce soir, au niveau de l'entrée, on a trouvé de la patate douce rôtie au brie. Pour ça, il vous faudra donc 16 noix de pécan. Vous avez vu, c'est précis, c'est 16, pas une de plus,
oui,
pas une de moins.
Oui, j'ai vu.
C'est comme ça, les recettes, des fois, c'est comme ça. Si j'avais mis noix de pécan, on m'aurait demandé, ouais, mais combien t'en mets? Voilà, donc du coup, j'en mets 16.
Ok.
De l'huile d'olive, alors ne me demandez pas, c'est suivant, voilà, c'est de l'huile d'olive, c'est voilà, un filet d'huile
ouais,
d'olive.
Ouais, au jugé, quoi. Enfin,
voilà. On ne va pas se prendre la tête avec ça.
Pas mettre une tonne, mais bon.
Sel, poivre, donc ça, c'est toujours pareil, c'est suivant votre goût. 3 patates douces et 3 belles tranches de brie de Meaux. Alors moi, j'ai pris le brie de Meaux parce qu'on n'est pas très loin du brie de Meaux. On aurait pu prendre du brie de Melun aussi.
C'est pas le même.
Ou du brie tout simple. Oui. Ou encore du brie à la truffe, mais ça, c'est encore pas le même budget. Au niveau matériel, vous aurez besoin donc du papier de cuisson, du papier alu, d'un couteau, d'un pinceau, d'une cuillère à soupe, d'une plaque ou d'un plat allant au four. Voilà, donc ça est l'un ou l'autre, c'est comme on veut. Ensuite, on a choisi les risottos crémeux au Saint-Jacques. Actuellement, les Saint-Jacques, c'est la pleine saison. On dirait que ça va être la fin de saison, mais il y en a encore plein. Et elles ne sont pas très très chères. Donc profitez-en, allez sur les marchés, allez voir votre poissonnier et demandez-lui des Saint-Jacques. Vous allez voir, ça va être un vrai délice. Donc pour ce risotto crémeux au Saint-Jacques, on aura besoin de 150 g de beurre, 3 oignons, du sel et du poivre, 450 g de riz pour risotto. Donc c'est un riz bien particulier. En général, il est rond.
Oui.
Vous aurez besoin de 120 centilitres de bouillon de poule, ce qui équivaut à peu près à 2 cubes de bouillon et 1 litre d'eau. 15 centilitres de vin blanc et puis 24 coquilles Saint-Jacques et parmesan à volonté. Pour le matériel, on aura besoin d'un mixeur, d'une casserole, d'un faitout et son couvercle, d'une louche et d'un plat de service. Et puis en dessert, on va faire un moelleux. Mmh. La dernière fois, nous avions vu un fondant.
Ouais.
Là, c'est un moelleux. Moelleux, donc au chocolat, bien évidemment. Pour cela, vous aurez besoin de 250 g de chocolat, 175 g de beurre, 125 g de sucre glace et 75 g de farine et 5 œufs. Vous aurez pour le matériel besoin de casseroles, d'une cuillère en bois, de plusieurs saladiers, au moins deux, d'un moule à gâteau, donc grand format ou modèle petit format. Donc moi j'aime bien faire en moule mou, parce que c'est facile à démouler déjà, ou en moule individuel que je laisse à l'intérieur et que je présente, qu'il soit présentable au moment du service. Mais voilà, les moules me vont bien parce que après je rajoute des petites choses.
Les moules, c'est moules en silicone.
Ouais, les moules mous. Les moules mous, c'est moules en silicone. Voilà, comme ça, je ne donne pas de marque.
Non, mais c'est pratique.
Mais c'est vraiment pratique. Ouais. Et puis au niveau du rangement et du nettoyage, c'est vraiment très très simple. Voilà. Et ben, avant de commencer nos recettes, moi je vous propose déjà une première pause et puis on se retrouve pour cuisiner la patate douce. À tout de suite.
Bisous sur ballon. Ronnie Renier, dis-leur comment faire.
Renier, dis-leur.
Je peux les dribbler même en talon. Tout Brésil coule dans mes veines. J'suis dans le bailli, j'fais la fête jusqu'à 7 et j'm'endors au son des Maluco, c'est la vraie vie. J'suis dans le bailli, chante le refrain et catchy sur la ligne de départ avant ma préf partir. C'est ça, c'est ça qui est ta favela. Après minuit, c'est Cinderella.
Pronta pro game, ninguém para. Et c'est dans la soque bala.
Si fratel, si je rappe, c'est pour les papels. Franc-manesserie, c'est le cartel et les Kings me disent tout doublem. J'suis comme Gerson à Marseille. Attends, j'finis ma taille. 47 dans favelle. Et oui, c'est nous les mecs mortels. Big sausage accélère comme le phénomène de Madère. Calibré comme Zepec, balle dans la tête. C'est pas un son, c'est la guerre. Et ça fait tchou tcha tcha tchou tchou tcha. Pedrinho, Bianca Costa, vamos danza. Anoy, j'ai toda au son des clics des favelas char. Shoot, shoot. Shoot, 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 shoot,
shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot,
shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot,
shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot,
shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot,
shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot,
shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot.
Alors, nous revoici, nous allons donc cuisiner la pâte douce. Mais avant, j'aimerais bien que Nathalie, tu puisses nous dire quelque chose sur la pâte douce.
Oui, je vais vous raconter l'histoire, l'origine de la pâte douce. Elle a été longtemps controversée, hein, je commence à bafouiller, cette origine. Bien que cette plante soit inconnue à l'état sauvage, il est maintenant admis qu'elle est originaire d'Amérique. Elle se serait diversifiée à partir de deux zones. Un centre principal entre la péninsule du Yucatan et le bassin de l'Orénoque au Venezuela, et où elle aurait été domestiquée vers 4500 avant Jésus-Christ. Puis, elle s'est répandue dès 2500 avant Jésus-Christ dans la cordillère des Andes et dans les Antilles. La plus grande diversité génétique, d'après l'étude des marqueurs moléculaires, se trouve en Amérique centrale, soutenant l'hypothèse que cette région est le principal centre de diversité et très probablement le centre d'origine de la patate douce. Voie de dispersion de la patate douce. Alors, poterie de la culture Mochica, vers 500, ornée de représentations de la patate douce. On peut voir ça au musée Larco à Lima. On a la tombe de Noguni Sokan à Cadena. Et Noguni Sokan introduit la pâte douce dans les îles Ryukyu en 1605 en provenance de Chine. Les plus anciens restes archéologiques de tubercules de pâte douce ont été trouvés au Pérou, dans le canyon Chilca. Ils sont datés par datation par le carbone 14 de 8000 à 6000 avant Jésus-Christ. Mais il n'est pas certain qu'ils proviennent de plantes domestiquées. Les premiers restes de tubercules indiscutablement cultivés proviennent de la vallée de Casma, également au Pérou, et datent de l'époque pré-céramique, soit environ 2000 ans avant Jésus-Christ. Alors, selon certains auteurs, la patate douce serait arrivée en Polynésie centrale vers 1100, puis en Nouvelle-Zélande et à Hawaï. Elle était déjà présente quand les explorateurs européens y sont arrivés, notamment James Cook, qui rencontra lors de ses voyages des sociétés cultivant déjà la patate douce dans l'île de Pâques à Hawaï et dans l'île du Nord en Nouvelle-Zélande.
Bien, merci Nathalie. Alors, c'est assez surprenant quand même.
Oui,
parce
du coup, on n'en sait pas vraiment plus.
Hein. Mais on n'en sait pas plus, mais bon, ça date de 2000 ans avant Jésus-Christ. Mmh. Et on la cuisine seulement maintenant et on commence à faire des frites à la patate douce, des choses comme ça.
Ça se répand plus.
Alors que
plus.
C'est un vieux légume, en fin de compte.
Oui.
Comme quoi, les vieux légumes, c'est dans les vieux pots qu'on fait les bonnes soupes, on va dire. Voilà, avec des vieux légumes. Donc, comme quoi, les vieux légumes ou les légumes qui sont un petit peu, quand vous avez sur les marchés ou dans les magasins, moi, franchement, je suis très friande de marché. Donc, et quand on a des vieux légumes qui sont un peu chers ou des légumes qui sont un peu abîmés ou qui sont biscornus, prenez-les, c'est exactement les mêmes choses. Et en général, ils sont beaucoup moins chers. Donc voilà, sauver ces fruits et ces légumes qui sont un peu biscornus. Moi, c'est une alerte parce que je trouve que on jette tellement d'aliments et maintenant sur les marchés, on trouve ce genre de légumes-là. Donc voilà, que ce soit des vieux légumes ou que ce soit des légumes un petit peu biscornus, ben, prenez-les, c'est exactement la même chose. Voilà, il faut soigner la présentation, mais le légume est le même. Voilà, c'est mon coup de gueule de ce soir.
Oui, mais c'est comme nous. Des fois, on est un peu biscornu, mais on est gentil, on est bien, on est bon.
Hein, oui. Mais enfin, on est bien né pour le moment. Hein. Voilà. Alors, on va revenir un petit peu à notre recette. Je vous en rappelle les ingrédients et puis le matériel. Donc, pour ces patates douces rôties au brie, il faudra donc 16 noix de pétanque, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, 3 patates douces, 3 belles tranches de brie de Meaux. Et puis, il faudra du papier cuisson, du papier aluminium, un couteau, un pinceau, une cuillère à soupe, et puis une plaque ou un plat allant au four style gratin de façon à ce que vos patates douces ne roulent pas. Voilà, moi j'aime bien comme ça, je les cale entre elles, c'est pas mal. Alors, vous devez prévoir quand même à peu près 10 minutes de préparation. Donc là, on n'est pas très... c'est bien. Il y a environ de 50 minutes de cuisson, donc ce qui vous permet de faire bien autre chose pendant que ça cuit. Et il n'y a pas besoin de grosse surveillance. Alors, c'est parti pour la préparation de ce plat. Vous allez voir qui est délicieux. Moi, je veux... j'en ai la bouche qui pétille, tellement ça me fait envie. Alors, on commence déjà dans un premier temps à bien laver les patates douces. Donc, comme son nom l'indique, hein, c'est une tubercule, donc ça va dans la terre. Donc, vous les lavez bien, voire vous les brossez. Hein, donc, une fois que vous les avez bien brossées, vous les mettez sur une feuille de papier sulfu ou dans le plat allant au four. Et vous allez, à l'aide d'un pinceau, les badigeonner d'huile d'olive. Voilà, tout simplement.
On les laisse entières ?
On les laisse entières et on les laisse avec la peau. Donc c'est important
donc,
parce que c'est la peau qui va faire comme les patates cuites hein, au four que faisaient nos parents. Ça cuisait pendant une heure et demie, si tu te souviens bien, les vieilles pommes de terre. Et on va se servir en fin de compte de l'enveloppe de la pomme de terre pour, bah, comme plat, voilà, on va le dire comme ça. Donc la pomme de terre, elle est badigeonnée d'huile d'olive. On va la faire cuire à 200 degrés environ 30 à 45 minutes. Alors j'ai mis un petit quart d'heure de différence parce que ça dépend de la patate douce que vous avez.
Oui, plus elle est grosse, plus c'est...
Voilà, tout à fait. Bon, c'est quand même pour... là, les menus en général que je vous fais, c'est pour 6 personnes. Donc, c'est pour ça qu'on en prend 3. Alors, on est dans une entrée, donc on ne va pas en prendre une entière. Ça, c'est tout dépend des gourmands que vous avez à table. Donc, la patate douce, la patate, elle est cuite lorsqu'on plante un couteau entier dedans. hein, qu'on rentre dedans. Tant que vous ne rentrez pas le couteau à l'intérieur, c'est qu'elle n'est pas cuite. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis 30 à 45. Important, 200 degrés, voilà. Vous profitez aussi à la fin de la cuisson, genre à 10 minutes de la fin de la cuisson, de mettre les noix de pécan un petit peu au four, ce qui va les griller, voilà, avec, et puis une fois que vous aurez cuit la patate douce et puis grillé un petit peu les noix de pécan, vous faites attention de ne pas vous brûler, hein, donc c'est important, ben, vous allez tout sortir. Donc vous allez sortir les noix de pécan. J'ai un pécan, je pense à la noix Saint-Jacques, qui n'est pas là du tout la même chose. Donc les noix de pécan, vous allez les sortir, vous allez les laisser refroidir parce qu'on va les un petit peu l'épiler de façon à le mettre par-dessus, vous allez voir après. Et puis, les patates, on les sort du four. Cette fois-ci, on va les ouvrir par le milieu. On va hacher grossièrement avec une cuillère à soupe. Hein. Donc, vous allez sortir la chair. Vous allez voir, c'est très, très simple. Vous sortirez la chair juste pour remuer. Hein, donc, vous faites très attention de ne pas vous brûler. Et puis, quand vous avez fait ça, vous les remettez sur les plaques. Sur laquelle elles ont cuites, vous mettez un filet d'huile d'olive, vous salez et puis vous poivrez, vous incorporez, alors, ou vous incorporez à l'intérieur de la chair les tranches de brie, ou vous les posez dessus. C'est comme vous le sentez. Moi, j'aime bien trifouiller la chair, comme ça je les mets à l'intérieur et tout est roussi et tout est parfumé au brie à l'intérieur. Et par-dessus, vous allez rajouter les noix de pécan que vous aurez épilées, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et puis, vous allez l'envelopper, la patate douce, vous allez les envelopper de papier d'aluminium, comme une papillote, mais vous allez laisser le dessus ouvert. Donc, voilà, donc c'est une papillote ouverte, donc ça fait comme une petite barque, on va dire. L'important, c'est que ça grille au-dessus, hein, que ça bulle un petit peu, et vous allez les mettre 5 à 10 minutes, l'histoire de roussir un petit peu, toujours à 200 degrés, l'histoire que le fromage roussisse un petit peu, et puis fonde dans votre pomme de terre. Alors moi, je ne mets pas au grill parce que ça va griller trop fort. Je mets voilà, le temps de gratiner un petit peu selon votre goût. Et puis, vous allez servir ça et déguster ça avec une belle salade. Alors, c'est une entrée, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, ben, vous pouvez très bien la servir en plat. Et dans ces cas-là, vous pouvez rajouter, allez, pour gourmandise, des lardons, du bacon. Avec, voilà, vous mettez, pareil, hein, c'est exactement la même chose. On remue la chair de la pomme de terre. On met les lardons à l'intérieur et le bacon à l'intérieur que vous aurez coupé en lamelles. Et puis, vous mettez par-dessus votre brie et vous le faites gratiner. Voilà, c'est une merveille. Voilà, c'est encore une recette facile, hein, mais auquel on ne pense pas. Bon, alors vous allez me dire, oui, mais il y a du temps de cuisson. Ben ouais, mais pendant ce temps-là, vous faites autre chose. Vous avez peut-être le bain à faire, ou prendre un livre, voilà. Enfin bon, vous trouverez toujours à faire quelque chose de toute manière. Nathalie, tu peux nous donner quelques renseignements sur ce brie de Meaux, justement?
Oui, le brie de Meaux, lui, serait originaire de l'abbaye Notre-Dame de Jouarre. En 1793, François Joachim Esnu-la-Vallée fit son éloge. Il dit « Le brie aimé par les riches et les pauvres prêchait l'égalité avant qu'on ne l'ait jamais imaginé possible. Le fromage aurait été sacré roi des fromages par Talleyrand lors du congrès de Vienne, dont le banquet de clôture aurait lieu le 9 juin 1815. Auparavant, Talleyrand prétendit qu'aucun fromage ne valait le brie. Metternich, agacé de ne pas voir son bleu de Bavière reconnu comme le meilleur, décida d'organiser, pour le banquet final du congrès, une dégustation des 52 fromages régionaux que représentaient les participants des différents pays en présence. À la fin de la dégustation, ce fut le prince Metternich lui-même qui proclama le brie comme prince des fromages et premier des desserts. À l'origine, le fromage était produit uniquement dans la région autour de Meaux, mais à partir de 1953, Le territoire de production voué au commerce s'étend vers l'est jusqu'à la Meuse. L'appellation d'origine contrôlée est obtenue le 18 août 1980. Et en 2015, les fromageries meusiennes de Courances-lès-Triconville, Réval et Biancourt-sur-Orge, situées dans l'aire géographique de la production du lait et de sa transformation en fromage de brie de Meaux, fabriquent 70% de la production française de ce fromage.
C'est incroyable, hein, c'est pas si vieux que ça hein, quand même, hein, c'est terrible. Hein, voilà, donc le brie de Meaux, c'est un fromage qui est abordable. Voilà, après, tout dépend si vous allez le chercher dans un maître fromager ou dans un autre fromager qui n'a pas l'intitulé de maître fromager. Voilà, bah écoutez, moi, merci Nathalie pour ces précisions. On se couchera moins bête ce soir.
Ouais.
Je vous propose, avant de passer au plat, je vous propose une pause et on se retrouve pour le risotto crémeux au Saint-Jacques. À tout de suite.
Qui résonne partout dans la maison. Moi je plane et retombe en enfance. Non, maman je hallucine, je vois les morts. C'est l'heure du bal, regarde-les qui dansent devant moi. Du bout de mes doigts, je guide leurs pas. Non, maman je hallucine, je vois les morts. Et je me plais si bien dans ce décor que j'oublierai demain. Je verrai les morts danser la nuit. Non, mercredi, je crois au fantôme fait aussi. Si j'ai de la chance, je verrai les morts danser la nuit. Je suis un mauvais garçon. Je maudis vos idoles et vos incantations. Moi je crois aux histoires qui m'enchantent. Sainte évidence. Mercredi, je crois au fantôme, au feu aussi. Si j'ai la chance, je verrai les morts danser la nuit. Non, mercredi, je crois au fantôme, au feu aussi. Si j'ai la chance, je verrai les morts danser la nuit. Maman, je lui signe, je vois les morts. C'est l'heure du bal, regarde-les qui dansent devant moi. Du bout de mes doigts, je guide leurs pas. Non, maman, je hallucine, je vois les morts. Et je me plais si bien dans ce décor que j'oublierai demain. Mercredi, je crois aux fantômes, aux fées aussi. Si j'ai de la chance, je verrai les morts. Je verrai les morts dans ces nuits.
Jusqu'à 20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Alors nous revoici pour la deuxième partie de notre menu. Donc ce soir c'est le risotto crémeux au Saint-Jacques. Mais avant toutes les explications de la recette, Nathalie, quelques précisions sur l'origine du risotto.
Oui, alors le risotto, dans le nord de l'Italie, une des premières notices faisant référence à la culture du riz, parce qu'on parle de riz, c'est une lettre de Galeas Marie Sforza, qui est daté du 27 septembre 1475, envoyé au duc de Ferrare et concernant 12 sacs de riz. Alors, le riz est cultivé dans le sud de l'Italie depuis le XIVe siècle et sa culture a fini par atteindre Milan dans le nord. Si, selon une légende, un jeune apprenti verrier de la Fabbrica del Duomo di Milano, originaire des Flandres, qui utilisait le safran comme piment, l'ajouta à un plat de riz lors d'une fête de mariage. La première recette identifiable comme un risotto date de 1809. Elle comprend du riz sauté dans du beurre, des saucisses, de la moelle osseuse, des oignons et avec un bouillon chaud auquel on ajoute progressivement du safran. Il existe une recette pour un plat nommé comme un risotto dans le Trattato di Cucina. Ou Cucina, je ne sais pas. Cucina, traité de cuisine, c'est ça. De 1854 de Giovanni Vialardi, qui est le chef adjoint des rois. Et cependant, la question de savoir qui a inventé le risotto à Milan reste encore aujourd'hui sans réponse. Apprécié particulièrement par Stendhal, le risotto est cité dans la littérature francophone dès 1818.
Eh bien, dis donc, quelle culture, hein, Nathalie. Vraiment, merci beaucoup, Nat, pour... pour ces précisions, donc maintenant on va passer par l'explication de cette recette. Donc pour réaliser ce risotto crémeux au Saint-Jacques, il faut prévoir à peu près 10 minutes de préparation et 30 minutes de cuisson. Alors c'est pas 30 minutes de cuisson pour les Saint-Jacques, c'est parce que les Saint-Jacques c'est très rapide, c'est plus pour le risotto, donc vous allez voir dans les explications. Alors, je vous rappelle un peu les ingrédients, 150 g de beurre, 3 oignons, du sel, du poivre, 450 g de riz pour risotto. Donc c'est un riz bien particulier, vous avez besoin de 120 centilitres de bouillon, donc c'est à peu près donc pour deux cubes de bouillon de poule, et vous avez besoin de 15 centilitres de vin blanc, 24 Saint-Jacques. Je vous rappelle que c'est une recette pour au moins 6 personnes, donc après vous faites vos calculs quand si vous êtes moins et puis si vous êtes plus. Et puis du parmesan, parce qu'il n'y a pas de risotto sans parmesan, et ça c'est à volonté. Côté matériel, vous aurez besoin d'un mixeur, d'un faitout et son couvercle, d'une louche et d'un plat de service et couteau. J'aurais même rajouté un plat réchaud. Ça se fait de moins en moins, ce qui est dommage. Alors c'est un plat qui est un plat à gratin et qui est posé sur un support métallique, et on mettait des bougies de chauffe-plat.
Ouais.
Et moi j'ai maman qui a encore ça.
Oui, ça se faisait dans les années 70, je crois.
Ouais, tout à fait. Et franchement, je sais que c'est vintage chez moi, mais je rêverais d'avoir ce genre de choses-là, parce que surtout pour ce plat-là, parce qu'il faut vraiment le servir très très chaud. Les Saint-Jacques, ça refroidit très vite. Ouais. Donc, quand vous avez ce genre de plat-là, voilà. Donc, c'est juste une petite parenthèse que je faisais comme ça. Et j'en appelle à la communauté, si jamais vous avez un chauffe-plat avec des bougies, comme je viens de l'expliquer, moi ça me va bien. Vous me mettez, je sais pas, par mail ou de la radio,
ça,
et je viens
trouver,
vous chercher.
Hein.
Voilà, hein, c'est un plat, c'est un chauffe-plat, ça s'appelle. Alors, on va commencer déjà par hacher les oignons dans votre mixeur. Et puis, dans une casserole, on va faire fondre avec de l'eau donc on va chauffer, même bouillonner, les bouillons de poule. Et puis, donc vous prévoyez un bon litre. Hein, et puis, quand c'est chaud ou pas, hein, vous pouvez... Alors, il y a deux... Moi, j'aime bien le mettre chaud, comme ça, ça va plus vite. Mais vous pouvez très bien le faire à froid. Hein, les bouillons de cube, ça se dissout aussi à froid comme à chaud, comme vous voulez, comme vous avez le temps. On va poursuivre en faisant revenir nos Saint-Jacques dans une poêle avec une belle noisette de beurre. Hein, donc là, les Saint-Jacques, on va les faire revenir. Alors, on les saisit pas plus de 5 minutes, c'est-à-dire 2 minutes 30 de chaque côté. Hein, on appelle ça snacker. On les fait roussir de chaque côté, ça évite qu'elles se, qu'elles se dessèchent. Et puis, on va les mettre dans une assiette réservée tranquillement pendant qu'on va faire le riz. Pour le riz, on va prendre un faitou, on va faire chauffer donc du beurre, on va laisser faire blondir un peu l'oignon, les oignons qu'on a mixés à feu vif, et puis on va y rajouter donc le riz, et puis on va baisser ensuite, quand c'est un petit peu roussi, mais pas trop hein, non plus, hein, c'est doré on va dire, vous allez donc baisser au minimum, et ça c'est important de baisser au minimum votre feu, et puis quand votre riz il est translucide, donc il n'est pas transparent, mais vous allez voir, il a une couleur un petit peu transparente quand même, vous allez ajouter le vin blanc. Donc ça va faire un pchit comme ça, hein. Ça s'appelle aussi déglacer. Et vous allez, une fois que le riz aura absorbé tout le vin blanc, vous allez rajouter une louche de bouillon de poule et puis couvrir votre riz. Vous laissez absorber votre liquide, vous rajoutez, donc vous ouvrez le couvercle, vous rajoutez une louche et ainsi de suite jusqu'à épuisement du bouillon. Voilà, il faut que votre riz ne doit pas être sec, donc il ne doit pas dessécher. Si vous trouvez qu'il est sec, vous arrêtez totalement la cuisson. Il faut vraiment que ça soit crémeux, parce que c'est l'amidon de ce risotto qui va en fin de compte faire cet effet crémeux. Pour les plus gourmands, vous pouvez rajouter un petit peu de crème fraîche, mais vraiment ça ne vaut pas la peine. Voilà, moi je dis ça, c'est par rapport à mes goûts, mais pour les gourmands, voilà, vous pouvez rajouter de la crème et ça se passe à ce moment-là. Donc quand on est vraiment en fin de cuisson, vous salez, vous poivrez, vous ajoutez vos Saint-Jacques et vous laissez réchauffer doucement pendant 1 à 2 minutes. Donc, et puis vous servez dans un plat bien brûlant, ça c'est important, parce que ben, comme je vous disais tout à l'heure, les Saint-Jacques, ben, ça refroidit très très vite. Et puis pour la déco, ben, vous pouvez rajouter un petit peu de persil haché par-dessus, si vous avez, ou de la coriandre, comme vous voulez. Et puis ben, chaque convive rajoutera son parmesan selon son goût. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas forcément le parmesan. Voilà. Donc, on laisse rajouter le parmesan. Voilà. Ben, Nathalie, peut-être des précisions sur cette Saint-Jacques. Ah, Nathalie a un souci de micro. 3-4. Hein. Donc elle est, donc on va faire tout. Nathalie va changer de micro dans 2 minutes. Voilà, c'est un petit problème technique. On est en direct, donc ça tombe bien. Voilà, ça veut dire qu'on est en direct surtout. Ça va, Nathalie, tu t'en sors? Voilà, est-ce que le
micro... Allô,
voilà. Oui, ça y est.
Je pense que tout le monde m'a bien entendu.
Voilà, on a pété les tympans de Théo, tout va bien. Allez Nathalie, tu nous dis un petit peu la Saint-Jacques, la coquille, c'est quoi, son espèce, allez, dis-nous.
Alors, la coquille Saint-Jacques, c'est une espèce de mollusque bivalve marin de la famille des Pertinidés. Parmi toutes les espèces de cette famille qui sont légalement autorisées à bénéficier de l'appellation commerciale Saint-Jacques, c'est la plus recherchée des gastronomes. Alors, elle est reconnaissable à sa grande taille, comparée aux autres espèces du genre pectène, et à sa coquille pourvue de côtes en éventail. On le voit bien d'ailleurs sur les coquilles, dont la valve supérieure est totalement plate, contrairement au pétoncle ou vanneau, dont les deux valves sont bombées. À coquille inégale, sa valve supérieure est totalement plate et pourvue de côtes. Elle est de couleur rouge à brun, quelquefois rose ou tachetée. Les yeux sont visibles, sous la forme de points noirs brillants sur le bord du manteau d'une coquille Saint-Jacques entrouverte. L'espèce possède de la particularité, rare dans le monde animal des coquillages, d'être muni de jusqu'à 200 yeux catadioptriques élémentaires, C'est des sortes de miroirs formés de couches de cristaux cubiques de guanine qui fonctionnent par réflexion et ils sont situés en bordure de la coquille. La coquille Saint-Jacques est hermaphrodite. Sa glande génitale appelée corail en gastronomie est constituée de deux parties, l'une mâle, qui est blanc-ivoire, à ne pas confondre avec le pied, et l'autre femelle, qui est rouge-orangé. Ces deux parties n'arrivent pas à maturité simultanément. Les gamètes mâles précédant généralement les femelles. La coquille Saint-Jacques peut se déplacer relativement vite sur de courtes distances, par bond, en claquant ses valves et en expulsant rapidement l'eau, ce qu'on appelle l'hydropropulsion, pardon. À l'état sauvage, elle peut vivre une vingtaine d'années et à sa taille commerciale, elle pèse 190 grammes, dont 120 grammes de coquilles. L'appellation coquille Saint-Jacques viendrait des coquilles dont se paraient les pèlerins se rendant à Saint-Jacques de Compostelle. Ces coquilles étaient supposées porter bonheur car elles rappelaient celles dont était sorti couvert un cavalier sauvé des eaux par les compagnons de Saint-Jacques qui transportait sa dépouille en Espagne. Cependant, l'origine de ce nom reste incertaine et encore débattue aujourd'hui.
Eh bien, écoute, Nathalie, vraiment, ce soir, on est incertain des dates. C'est incroyable.
C'est vrai que, oui, sur toutes les origines, on ne sait pas trop.
Ah oui, ce qui me surprend toujours, c'est quand on achète de la coquille Saint-Jacques, on a toujours plus de coquilles que de chair. Oui, mais c'est tellement bon. Voilà. Bah, écoutez, je pense que après cette page de culture que Nathalie nous a apportée, je vous propose une pause et puis on passe au moelleux tout de suite. À tout de suite.
Ooh.
jusqu'à 20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Alors nous revoici pour la suite de notre menu, à savoir le dessert. Donc c'est un moelleux au chocolat. Alors Nathalie, je suis certaine que tu as une petite chose à nous dire sur ce fameux moelleux.
Oui. Alors, ce fameux fondant, d'ailleurs, c'est marqué sur ma fiche.
Oui.
Mais c'est un moelleux. Le fondant, lui, au chocolat, est souvent fort en sucre, œufs et chocolat. Il contient peu de farine. Une unité de sucre pour un tiers de farine par rapport à d'autres recettes de gâteaux au chocolat. C'est sa texture dense et un peu collant, parce qu'il adhère au palais, obtenu en caramélisant légèrement les ingrédients face à une cuisson lente qui le caractérise. Il faut noter qu'un fondant au chocolat n'a pas le cœur coulant en comparaison à un moelleux mi-cuit, aussi appelé au cœur coulant, qui est souvent servi en portions individuelles, chaud et avec de la crème anglaise. Sa dénomination gâteau fondant vient du fait qu'il fond sur le palais quand on le mange. Depuis quelques années, le fondant au chocolat a envahi nos tables. Il est devenu si populaire qu'on s'imagine qu'il a toujours existé. Son origine est bien souvent méconnue. Et pourtant, c'est par l'un de nos grands chefs qu'il a été inventé. Le fondant au chocolat est en effet l'œuvre de Michel Bras, qui dans sa cuisine de l'Aubrac a passé 2 années à peaufiner sa recette. La recette d'origine se basait sur un cœur de ganache congelé, puis intégré dans une pâte à biscuits. Depuis 1981, date de la naissance du fondant, la recette s'est simplifiée et le principe de deux pâtes, deux températures est maintenant souvent délaissé au profit d'une seule pâte à biscuits à forte teneur en chocolat. Même simplifiée, la maîtrise du fondant au chocolat et surtout de sa cuisson n'en reste pas moins délicate. Si vous échouez la première fois, c'est normal. Persévérez, le résultat en vaut la peine.
Donc on a bien compris que le fondant, ses bras, qu'il a, est devenu le moelleux, hein, donc fondant moelleux. Comme le disait Nathalie, le fondant, ça colle, c'est le fondant, oui, le fondant.
Oui, colle au palais.
Colle au palais et coule, alors que le moelleux reste, donc c'est un moelleux, et vous allez voir, la cuisson est assez rapide pour ça. Donc on va voir ensemble un peu maintenant la recette de ce moelleux. Pour cela, donc, je vous rappelle les ingrédients. On aura besoin de 250 g de chocolat, 175 g de beurre, 125 g de sucre glace, 75 g de farine, 5 œufs. Et côté matériel, on aura besoin d'une casserole, d'une cuillère en bois, de plusieurs saladiers, de deux entre autres, d'un moule à gâteau ou des moules individuels, donc 6 parce que la recette est pour 6 personnes. Ou des moules mous, hein. Comme je vous disais, on a maintenant, depuis quelques années, des moules qui sont faciles à nettoyer et puis faciles à démouler. Et pour ce moelleux, moi je préconise plutôt ces moules mous, les moules en silicone. Voilà, moi j'aime bien les moules mous, dire moules mous.
C'est la première fois que j'entends ça.
Ben ouais, mais moi je dis moules mous, parce que c'est des moules mous.
Oui.
Hein. Voilà, donc il faut compter à peu près 10 minutes de préparation, et vous voyez, je vous disais, au niveau de la cuisson, c'est une cuisson qui est relativement rapide, puisqu'on aura 15 minutes de cuisson. Donc déjà, dans un premier temps, on va faire ce qu'on appelle faire fondre le chocolat au bain-marie. Donc je vous rappelle le système du bain-marie, c'est de mettre un saladier avec l'eau chocolat à l'intérieur et sur une casserole d'eau bouillante. Donc il faut pas que, enfin, il faut que le saladier vienne à fleur. Ne prenez pas n'importe quel saladier, prenez au moins un saladier qui a besoin de, enfin, qui peut avoir beaucoup de température. Parce que si vous achetez un salade d'une mauvaise qualité, ça risque de claquer, puisque c'est de l'eau bouillante qu'on va mettre, enfin, qui passe en dessous. Donc si ça ne prend pas la bonne température, il risque de claquer.
Un cul de poule.
Oui, ça peut être. Alors, je parle du verre, mais ça peut être tout à fait en métal, tout à fait. Et maintenant, il existe aussi des casseroles où vous avez une ouverture, vous mettez de l'eau à l'intérieur et au-dessus, vous avez une espèce de
Moi j'ai ça
à la maison. C'est pas nouveau, c'est aussi ancien, c'est assez vintage.
Ah ouais.
Mais oui, j'ai ça pour le bain-marie, donc je fais avec ça. Alors vous avez aussi une autre solution, c'est de mettre de l'eau chaude sur votre chocolat et d'enlever l'eau chaude quand le chocolat est fondu, quand vous voyez que le chocolat est fondu. Tant que vous ne le mélangez pas, il ne va pas se mélanger au chocolat. Mais enfin bon, c'est périlleux. Vous
oui,
avez aussi
ça,
une
autre
solution, c'est de mettre au micro-ondes. Mais moi, franchement, le micro-ondes, ça me... Après, tout dépend de la puissance de votre micro-ondes. Et ça, il faut faire très, très, très attention. Donc, on revient sur notre... Donc, on a mis au bain-marie notre chocolat. Il est un petit peu fondu. On va y rajouter le beurre donc en morceaux. Hein, et on va incorporer petit à petit... de façon à ce que on le mélange et que ça devienne une crème lisse et bien lisse très homogène. Et puis dans un autre saladier, vous allez mettre de la farine, le sucre glace et vous allez ajouter les œufs entiers et mélanger. Donc vous pouvez vous servir d'un fouet ou d'une marise, c'est comme vous le sentez. Si vous avez un fouet, ben plus vous allez le fouetter, plus ça va être un petit peu mousseux et que ça va faire rentrer de l'air, c'est comme vous voulez. Une fois que votre préparation est faite, vous allez verser le mélange chocolat-beurre sur cette préparation-là. Donc sur la farine, sucre et puis œuf. Une fois que vous avez incorporé, donc vous incorporez ça au niveau de avec une spatule. Et puis, vous allez... Donc, il faut vraiment que le mélange soit lisse et très homogène. N'oubliez pas, si vous avez des moules individuels en métal ou en verre, de beurrer, de fariner. Si vous avez des moules mous ou des moules en silicone, dans ces cas-là, ce n'est pas la peine de fariner et de beurrer. Ou vous avez un grand moule, et dans ces cas-là, vous farinez, vous beurrez. Voilà, et on va mettre ça 10 minutes au four, donc à 200 degrés, donc un four chaud. Donc vous l'aurez déjà préchauffé. Donc 10 minutes pour les petits, d'accord. Et vous émettrez 15 minutes pour les grands. Ça se sert tiède, donc vous servez de ça tiède avec une crème anglaise. Voilà, le centre doit être coulant. Ou vous servez froid avec nappé de ganache au chocolat. Voilà, c'est un vrai bonheur gustatif, ce fondant, ce moelleux au chocolat. Je vous propose une pause et puis on se retrouve tout à l'heure pour plein d'explications et d'autres recettes. À tout de suite.
Salut, c'est Jade Anaé sur Infini Radio.
Comme dans un film, on a su faire de nos rêves juste une heure. fracasse et s'embrasser tous les quarts d'heure. Tous les jours, nouveau record. Des légers rires de chacune de mes paroles quand je parle d'amour. Et plus encore, ce n'est qu'une amorce. Je voudrais qu'on se tire, ouais, l'histoire de moi. Je voudrais qu'on se tire, ouais. Les rues de Brooklyn et la neige sur les corps. Comme dans un film de Noël. Je voudrais qu'on se tire, ouais, l'histoire de moi. Je voudrais qu'on se tire, ouais. Les rues de Brooklyn et la neige sur les corps. Comme dans un film. Je voudrais qu'on se tire, ouais, l'histoire de moi. Je voudrais qu'on se tire, ouais. Les rues de Brooklyn et la neige sur les corps. Comme dans un film de Noël. Je voudrais qu'on se tire, ouais, l'histoire de moi. Je voudrais qu'on se tire, ouais. Les rues de Brooklyn et la neige sur les corps. Comme dans un film de Noël.
À 20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Alors, on parlait du moelleux avant la pause. Et Nathalie, moi j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu du chocolat.
Oui, le chocolat. Alors, le chocolat, terme d'origine méso-américaine, c'est un aliment plus ou moins sucré produit à partir de la fève de cacao. Alors, cette fève, elle est fermentée, torréfiée même, broyée jusqu'à former une pâte de cacao liquide dont est extraite la matière grasse qui est appelée beurre de cacao. Le chocolat est constitué du mélange dans les proportions variables de pâte de cacao, de beurre de cacao et de sucre auxquels sont ajoutées éventuellement des épices comme la vanille ou des matières grasses végétales. Consommé initialement sous forme de xocoalt, c'est une boisson épicée au Mexique, et en Amérique centrale, le chocolat se démocratise avec la révolution industrielle. Et au 7e siècle, il est...
Au 17.
Au 16e siècle, 16e. Voilà, j'ai mon micro devant les yeux en fait. Il est consommé sous forme solide, chocolat noir ou au lait, ou liquide, ce qui est le chocolat chaud. Le chocolat, lui, se retrouve dans de nombreux desserts tels que les confiseries, les biscuits, les gâteaux, les crèmes glacées, les tartes, les boissons. Offrir du chocolat moulé de différentes manières est devenu traditionnel lors de certaines festivités. Les œufs, les lapins, les poules, les cloches et les petites figurines de poissons ou fruits de mer à Pâques. Pièces de monnaie pour Hanouka, truffes pour Noël, cœur pour la Saint-Valentin ou les traditionnelles marmites de la fête de l'escalade en Suisse dans le canton de Genève. Que je ne connais pas du coup.
Moi non plus, mais voilà, c'était dans l'article. Mais voilà, c'est bien qu'on parle de Pâques parce que c'est bientôt.
Oui.
Donc on fera peut-être une émission spéciale Pâques. Ça serait rigolo que je vous fasse faire des œufs de Pâques. Ça serait bien, tiens. Je vais y réfléchir, je vais y penser. Écoutez, il nous reste encore un petit peu de temps. Ça tombe bien parce que je vous propose des bonus. Alors, pour ces bonus, alors vous allez me dire, ouais, c'est des recettes qu'on a déjà vues. Donc, les bonus que je vous propose ce soir, c'est la crème anglaise. Et la ganache. Alors oui, c'est des deux recettes qu'on a déjà vues, mais si vous êtes aussi doué que moi et que vous n'avez pas envie de fouiller dans les podcasts, c'est comme ça qu'on dit.
Tu l'as bien dit.
Oh la vache, tu vois, je me suis exercée, franchement. Et donc voilà, les différents podcasts des recettes. Moi je vous les redonne en direct. Alors pour 50 centilitres de crème anglaise, vous portez à ébullition 50 centilitres de lait en ayant bien pris soin de plonger une gousse de vanille fendue en deux dans le sens de la longueur. Vous allez la laisser donc infuser 10 minutes, feu éteint bien évidemment. Puis vous allez retirer la gousse de vanille, récupérer les graines qui sont à l'intérieur en grattant avec un couteau et vous allez les délayer dans le lait. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez une seconde casserole ou un saladier, vous allez y fouetter à l'intérieur les 4 jaunes d'œufs et 50 g de sucre afin que de mélanger et de blanchir. Je vous rappelle que les blancs, on les garde ou vous les mettez au congélateur ou vous en faites des meringues. Je donnerai la recette encore une fois un autre jour. Voilà ce qu'il me faudra, ce qui me permettra de faire des bonus supplémentaires. Donc ensuite, vous allez incorporer petit à petit votre lait qui est encore un peu chaud, donc pour rendre l'appareil homogène. Donc vous fouettez bien. Vous y ajoutez une cuillère à soupe de maïzena et puis vous allez réchauffer le mélange à feu moyen. Alors la cuillère de la soupe de maïzena n'est pas obligatoire, mais ça permet de bien épaissir la crème anglaise. Donc sans cesser de remuer, surtout quand elle est le mélange œuf, sucre et puis lait est bien mélangé, et vous le remettez au feu à feu moyen et sans cesser de remuer. Ça c'est important. Vous guettez le moment où la crème va s'épaissir. Et puis, alors je vous rappelle l'astuce de savoir comment elle est cuite. C'est en fin de compte, vous trempez une cuillère en bois et vous passez votre doigt dessus dans le sens de horizontal. Et si la crème coule de trop, c'est qu'elle n'est pas assez cuite. Donc vous remettez un petit peu à feu doux. Et si au contraire elle ne coule pas, c'est qu'elle est cuite. Voilà. Surtout ne pas laisser bouillir votre crème anglaise, sinon elle est foutue. Vous allez retirer du feu, fouetter activement, et puis moi j'aime bien la passer au feu, au chinois, parce que comme ça, si jamais il y a des petites coquilles ou des petits granulés qui se sont mis dans cette crème anglaise, le chinois va les récupérer. Et vous réservez dans une saucière au frigo, tout simplement. Vous la laissez d'abord refroidir à température ambiante et après vous la mettez au frigo. Alors le deuxième bonus, on a le temps, ça tombe bien, c'est la ganache. Alors c'est aussi simple, donc vous allez porter à ébullition 20 centilitres de crème liquide et puis on va verser cette crème sur le chocolat qu'on aura cassé en petits morceaux. On va couvrir, laisser un petit peu en attente 2-3 minutes. Et au bout de ces 2-3 minutes, vous allez la découvrir et vous allez mélanger vigoureusement avec un fouet pour obtenir une préparation lisse. Vous laissez refroidir toujours à température ambiante et donc vous aurez une ganache. Si vous voulez la ganache garnir une pâte à tarte, une pâte à tarte sablée pour faire une tarte au chocolat, dans ces cas-là, vous la laissez pas refroidir, vous la versez sur votre pâte sablée ou la pâte brisée, c'est comme on veut. Voilà. Pour les amateurs de chocolat, vous pourrez également la déguster seule. Voilà, c'est avec le doigt si vous voulez, si vous êtes tout seul à la manger, ou avec un petit peu de crème anglaise, ou vous napperez de chocolat, vous pouvez marier avec le chocolat blanc et le chocolat noir, et puis comme je vous l'ai proposé ce soir, la mettre en nappage. Donc ça, il faut le mettre une fois quand elle commence à être un peu chaude et qu'elle commence à tiédir, hein, de façon à ce qu'elle nappe bien votre moelleux, et puis vous la servez avec une crème anglaise dans le fond de l'assiette avec une petite virgule, et ça fera très 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 joli dans l'assiette. Voilà, écoutez, nous sommes à la fin de notre émission. J'espère que vous allez vous régaler autant que moi je me suis régalée à préparer ces différentes recettes, encore une fois délicieuses et faciles à réaliser. Je vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, avec de nouvelles recettes tout aussi bonnes et faciles à réaliser. On vous souhaite un bon appétit, une excellente soirée. Surtout, vous prenez bien soin de vous et des vôtres. Bonne soirée.
Bonne soirée.